Bienvenue au podcast Premier Visionnement. Aujourd'hui, on parle d'un film digne de mention ou pas des annales du cinéma. Avant de commencer, je vous suggère fortement d'écouter le film proposé aujourd'hui car je vais le spoiler complètement. Bonne écoute.
Keep the change, you filthy animal.
Bienvenue au Texas. Aujourd'hui, on parle de Comancheria, sorti en 2016 et réalisé par David McKenzie, avec Jeff Bridges, Chris Pine, Ben Foster et Gil Birmingham. Je suis Mathieu et le seigneur du podcast, c'est moi. Alors, bienvenue au podcast cette semaine, mais on couvre un film unique seul. Pas de suite, pas de rien d'autre. Techniquement, ça fait partie d'une trilogie écrite par un écrivain, l'écrivain du film, dans le fond, là, Taylor Sheridan, que lui a écrit 3 films, puis c'est ça, ça fait partie là, de sa trilogie de films. Là, c'est le deuxième film là-dedans. Lui, cet écrivain-là, il écrit sur des comme les frontières américaines, puis dans le fond, c'est ça, c'est le deuxième épisode là-dedans. Le premier film, c'était le film Sicario qui était sorti, je pense, c'était en 2015. Puis éventuellement, ben par la suite de ça, il va lui-même réaliser là, le troisième film. Là. Aujourd'hui, ben, t'sais, c'est comme j'ai dit plus tôt, c'était M. McKenzie là, qui était le réalisateur. Mais c'est ça, l'écrivain finalement va prendre les commandes là, pour finir là, sa trilogie de films là, basée là, sur les frontières américaines. Puis, tu sais, dans le fond, là, tout est élaboré là, un peu, là, comment que lui, ben, dans le fond, là, lui, en écrivant les films, là, ben, il se base sur ce qu'il sait, sur ce qu'il, ben, tu sais, ce qu'il a vécu, tout ça. Fait que c'est pas mal ça pour le film d'aujourd'hui, mais pourquoi est-ce que Premier Visionnement couvre ce film-là aujourd'hui? Ben, ça a été demandé là, par un auditeur de couvrir le film. Là, dans le fond, un auditeur qui a fait un don au podcast et qui, comme que je fais depuis le début d'année, je fais un peu des films à droite et à gauche. Puis, dans le fond, ben, on continue un peu là, sur cette lancée-là. Mais c'est ça, fait que le film aujourd'hui là, connu ben, t'sais, le film moi je l'ai vu juste en anglais puis je sais pas si vraiment la version en français existe. Je l'ai écouté sur Netflix puis c'est ça, il n'y a pas de langage français. Le film Comancheria qui était le nom original du film là, ben, t'sais, en version anglaise, qui a été transféré là, comme nom là, par pas comité là, mais t'sais, dans les studios qui ont décidé qu'ils ont changé le nom là, par la suite, là, qui appelaient ça Hell or High Water, qui veut dire peu importe qu'est-ce qui arrive, mais, peu importe les circonstances, ben on doit aller de l'avant. Fait que ça a été comme voté à l'interne là, de changer le nom du film. C'est ça. Quand M. Sheridan, là, qui écrit le film, a écrit le film, dans le fond, son inspiration originale, je pense, pour arriver au film, ça vient de la mini-série des années 80, le 89, Lonesome Dove, que j'ai jamais vu, je pense jamais avoir entendu parler, fait que, dans le fond, ça a été pas mal son inspiration. Mais tu tant qu'à être parti là, sur M. Sheridan, puis tout complété au complet, là, où, par la suite aussi, c'est ça, en faisant le troisième volet de sa trilogie, ben par la suite, il s'est mis à écrire là, la série Yellowstone que vous pouvez probablement connaître, que j'ai pas vu, j'ai entendu parler, mais suite au départ de M. Costner, moi j'ai plus d'intérêt vraiment à écouter une série. Là, en tout cas, peut-être que laissez-moi dans les commentaires là, si ça vaut quand même la peine là, d'écouter la série, là, même si M. Costner, qui était le principal, a quitté, ça peut faire peut-être comme un agent Mulder qui quitte là, à la fin des X-Files et qu'on l'a remplacé là, par Robert Patrick ou en tout cas quelque chose de même. Là, je sais vraiment pas comment que la série est basée sur le personnage, tout ça, mais je me suis dit, je vais vous en parler puis vous lancer là, la question. Puis donc, vous pouvez peut-être me répondre là, sur le post du podcast aujourd'hui. Si des fois, vous, c'est la première fois que vous écoutez le podcast aujourd'hui, ben, je vous invite à suivre le podcast là, sur premiervisionnement.com où vous pouvez voir tout ce qui a été fait là, par le passé, par le podcast. Là, c'est juste une plateforme, dans le fond, pour vous faciliter, dans le fond, de voir tout ce qui a été fait au podcast. Sinon, vous avez des liens directs aussi pour voir toutes les franchises que j'ai couvertes. Le podcast couvre principalement des franchises, mais comme aujourd'hui, ben, on s'étale un peu en faisant des films simples. Chose que je fais de plus en plus là, cette année surtout. Là. Fait que suivez le podcast là, sur les trois réseaux sociaux, Facebook, Twitter et maintenant Instagram. Alors, M. McKenzie, le réalisateur du film, c'est un réalisateur pas mal indépendant qui dirige sa propre compagnie là, de production. Je crois l'avoir vu genre juste un film, puis ça fait vraiment longtemps, là, Young Adam, là, 2003, en tout cas ça fait vraiment longtemps, là, je me rappelle plus vraiment de ce film-là, mais je suis même pas sûr de l'avoir vu au complet, là, en tout cas, c'est, il me semble que c'est avec Ewan McGregor, puis en tout cas c'est un film assez, c'est un film indépendant tout simplement, là, il me semble que c'était correct, là. Mais dans le fond, c'est lui qu'on va avoir choisi là, pour réaliser le film. Puis le film va avoir été fait là, sur un budget là, de 12 millions. Probablement plus pour juste les acteurs. Puis avoir récolté là, pas mal 4 fois là, son. 3 fois dans le fond, le 38 millions. Va avoir récolté ça. Ayant eu aucune production. Pas production, là, mais d'argent là, mis là, des promoteurs. Parce que les promoteurs, ironiquement, ne voulaient pas vraiment d'un film qui allait à l'encontre des banques. Fait que, tu sais, c'était pas vraiment là, leur idée là, de vouloir promouvoir un film de même. Ils savaient qu'avec les acteurs, tous les screen tests qui avaient été faits au départ avaient été positifs, mais. C'est ça, tu sais, à cause du sujet apporté là, dans le film, on a choisi là, de ne pas vraiment faire là, de grosses sorties, puis que dans le fond, là, tout le côté récolte box-office a été fait plus dans les petits cinémas de genre, si on peut apporter ça de même comme nom, là, mais pas vraiment à grande échelle. Alors, selon Wikipédia, le synopsis du film est « Après la mort de leur mère, Toby Howard et son frère Tanner, celui-ci récemment sorti de prison, doivent éviter la saisie de leur propriété familiale située au Texas. En terre autrefois Comanche, un ranch à laquelle les forages pétroliers sont envisagés, ils décident alors de commettre une série de braquages visant uniquement les agences d'une même banque, la Texas Midlands Bank, précisément celle qu'ils doivent rembourser. Les deux frères blanchissent leur argent dans les casinos indiens et l'État voisin de l'Oklahoma. Pendant ce temps-là, l'officier Marcus Hamilton, bientôt à la retraite, se lance à leur poursuite avec son adjoint d'origine amérindienne, Alberto Parker. Fait que, dans le fond, le film, c'est sûr que, tu sais, ils veulent, comme un peu l'écrivain veut apporter, c'est un film qui veulent un peu montrer là, la vie texane, la vie de Comanche. Dans le fond, dans l'état actuel, c'est ça, dans le fond, le but un peu de l'idée, de montrer un peu comment que l'état des. Que c'est en ce moment, qu'est-ce que leur vie. On va voir comme la vie texane ferme les troupeaux de vaches là, quelque part, tout ça. Un petit peu la vie texane. Pareil comme les Comanches, eux autres, comment que, dans le fond, ils sont perçus par la société, comment que autrefois la terre qui était à eux, comment que maintenant ils font partie du peuple aujourd'hui, mais le peuple texan, mais qui en bout de ligne, comment que c'est vraiment apporté là, sur plusieurs plans, comment ils sont acceptés, pas acceptés tout à fait, comment que c'est grisâtre là, ce terrain-là. Je pense qu'on veut démontrer ça un peu aujourd'hui. Comment que, en tout cas, c'est vraiment tout apporté le côté. de la relation de ça. Puis tu sais, pas mal dans deux perspectives différentes là, avec nos deux duos qui est apporté là, du côté de la loi, de la justice, ou en tout cas, apporté ça avec les officiers, dans le fond, là. Et du côté, là, dans le fond, là, de nos voleurs ou nos frères là, qui sont poursuivis là, par nos deux officiers. Puis c'est ça, ben, dans le fond, avec même le titre du film, là, ben, qui apporte dans les deux sens, ils ont chacun le moment là, que peu importe qu'est-ce qui arrive, dans le fond, ils doivent compléter leur chemin. C'est pas mal tout pour ben, t'sais, ces trois personnages, là, surtout, là, que ce soit le personnage de Jeff Bridges, que ce soit le personnage là, de Chris Pine, ou même le personnage là, de Ben Foster, vont chacun avoir leur moment, là, t'sais, ils peuvent arrêter, puis juste pas continuer, mais que dans le fond, ils ont comme un but à atteindre, puis ils vont devoir l'atteindre pour la fin du film. Alors, le film, c'est mon premier visionnement. J'ai pas vu le film avant. J'ai déjà vu peut-être le poster passer, quelque chose de même. Mais j'ai pas été plus attiré que ça envers le film. Rien de. J'ai pas nécessairement là, de pensée négative à rien. Pourtant, avec tête d'affiche Chris Pine et Jeff Bridges, c'est quelque chose que j'aurais dû peut-être écouter. Mais c'est ça, ça a juste comme pas donné, puis juste peut-être qu'il est peut-être tombé une fois ou deux sur mon chemin, puis après ça, ben, j'ai pas insisté. Pas quelque chose qui veut dire que je n'aurais jamais écouté le film, mais en tout cas, fait que me l'avoir emporté là, pour le visionnage aujourd'hui, ben, c'est pas quelque chose que j'étais contre, mais c'est quelque chose que je n'ai pas vu, donc c'est ça, c'est mon point de visionnement. Le film ouvre on a tous les paysages du Texas. Puis, tu sais, dans le fond, la caméra fait un genre de 360, nous montrer un peu là, qu'est-ce que l'alentour là, de la banque de Texas Midlands a de l'air pour comprendre là, que, dans le fond, il y a quelqu'un qui arrive au travail le matin puis que, finalement, ben elle va se faire là, aborder là, par nos deux voleurs. Avant d'embarquer là-dedans, là, je vois tout de suite, tantôt j'ai parlé là, de l'éditeur du film, parce que on voit tous les noms un peu, là, en tout cas une partie, puis on en voit un peu plus tard. Je vais aborder ça tout de suite. L'éditeur en question, là, j'ai pas parlé tantôt, c'est par Jake Roberts, puis j'ai fait ma recherche suite à ça en voyant les noms passer un peu. Dans la production, Jake Roberts, étant lutteur là, dans les années 80, si ça vous dit quelque chose, là, de Jake the Snake Roberts, en tout cas, en écoutant le film, je me suis dit, bon, Jake Roberts, ça, je ne sais pas si c'est le fameux Jake the Snake, mais c'est ça, en tout cas, anecdote de même. Puis en même temps, ben, tant qu'à parler de production, ben, je vais parler de la musique tout de suite pour nous garder un ton. C'est sûr qu'on a beaucoup de chansons de musique là, qui, tout au long du film, mais c'est pas mal. La musique là, est contribuée là, par un duo, là, par un groupe qui s'appelle Nick Cave and the Badlands. On a Nick Cave et son collaborateur là, dans ce groupe-là, là, Warren Ellis. Que eux autres, c'est des collaborateurs là, dans leur groupe. Puis c'est eux autres qui vont apporter la musique aujourd'hui, qui va être quand même assez important, je pense, qui va donner quelque chose. Tu sais, je ne suis pas un fan de country, pas du tout. C'est pas quelque chose qui marche là, dans mon lecteur. Par contre, comme que j'ai déjà parlé, là, je ne sais vraiment pas c'est dans quel film, là, même si la musique n'est pas mon genre, des fois ça l'aide à embarquer dans le film pour l'ambiance du film, des affaires de même. Puis, je trouve que ce qui va être apporté là, d'un point de vue trame sonore et même pour le côté musical, dans tout ce qu'on va avoir aujourd'hui, là, c'est vraiment fort en tant que tel. Puis c'est très important, comme un film, là, comme Halloween ou n'importe quoi, là, je vais le nommer Halloween parce qu'on est au mois d'octobre, mais c'est l'ambiance, qu'est-ce que la musique apporte. Puis, c'est quelque chose là, qui tu sais, avec tout le montage fait par M. The Snake Roberts... Ben, tout dans tout ça ensemble, Ça l'aide à faire la fluidité, la connexion de scène, tout ça. Fait que, en tout cas, c'est tout le côté collaboratif. C'est quelque chose que je vais apprécier tout au long du film. Là, puis même la cinématographie, là, la photographie là, du film qui est apportée là, par Giles Nutjens. Nutjens, en tout cas, je ne sais pas comment dire. Mais en tout cas, que j'ai pas vu rien d'autre de filmé par lui. C'est pas nécessairement un grand visionnaire, en guillemets, là. C'est correct, là, je veux dire, en tant que tel, pour les prises de vue. Mais c'est ça. C'est quand même, c'est apporté aussi par le travail là, collaboratif du réalisateur, puis de la musique et du monteur. Fait que, c'est ça. Le film, il ouvre, dans le fond, là, dans le premier vol de banque. On peut, en tout cas, c'est ça, là, j'étais là comme, bon, est-ce que ça va mal virer tout de suite ou pas mal virer, qu'est-ce qui va se passer? Il nous laisse un petit peu là, dans une zone grisâtre au début, où ce que dans le fond, on a la dame qui ouvre la banque, puis que dans le fond, on nous explique qu'elle ne peut pas ouvrir les coffres, il faut qu'elle attende M. Clausen, qui va arriver un peu plus tard, puis que, tu sais, elle va traiter, là, je pense que c'est le personnage là, de Ben Foster, elle va le traiter de stupide, puis lui, tu sais, dans le fond, il va avoir de la misère à le prendre. Puis, tu sais, on est là à se dire, bon, ben, tu sais, est-ce qu'ils vont la descendre? Est-ce qu'il va se passer quelque chose de plus sérieux? Tu sais, dans le fond, avec quoi qu'on s'en va avec ça? Même quand M. Clausen arrive, la scène va terminer, là, où est-ce qu'on va y casser le nez? Fait que c'est un peu brusque, tu sais, ou... on reste quand même dans une, un côté grisâtre. Est-ce que quand il part, parce qu'on ne le voit pas quand il part tout de suite, là, ça va peut-être prendre 10 minutes là, pour revenir à la banque puis comprendre si, mettons, on est, s'il y a un plus qu'un vol de banque qui a été effectué. Mais c'est ça, à quelque part, ben, c'est juste vraiment un vol de banque. Mais je me suis vraiment posé la question, est-ce qu'ils vont avoir descendu M. Clausen? Puis, tu sais, dans le fond, ben, c'est ce qui va se sentir pas mal là, dans les premières scènes, où, ce que, dans le fond, c'est ça, ils vont voler la première banque là, qui est à Archer. Et après ça, ben, ils vont se ramasser à une deuxième banque, la ville de Olney, pour voler une deuxième banque où ce qu'il va y avoir un homme armé, puis que finalement, ben, ça va finir. C'est comme un petit peu plus dangereux chaque place qu'ils vont. Quelque chose qui va tout le temps être de plus en plus dangereux, de plus en plus risqué pour les deux frères. Puis c'est ça, à quelque part, c'est ça qui va toujours être de risquer plus. Puis c'est ça, à quelque part, ben, tu sais, ça sent qu'éventuellement, ça va virer au drame. Puis c'est combien de temps que ça va prendre pour virer au drame. Mais c'est ça, au début, ça se limite juste à des vols de banque, pas plus de violence. Quasiment le plus violent qui arrive, c'est la cassure du nez là, le dirigeant là, de la première banque. C'est tout, ça se limite pas mal à ça. Tu sais, comme à la première banque, ben, tu sais, il n'y a pas de caméra de sécurité. Dans le fond, elle n'est pas raccordée là, parce que dans le fond, c'est digital. Puis. Leur magnétoscope pour enregistrer, ben, tu sais, ne fonctionne pas avec le digital. En tout cas, ils ont trouvé quelque chose, une raison peut-être là, pour ne pas avoir là, de vidéo. Mais tu sais, c'est vraiment pour montrer là, qu'à chaque fois, ben, tu sais, c'est de plus en plus risqué. Puis, tu sais, éventuellement, ben, tu sais, parce qu'ils ne savent pas c'est qui, ils n'ont pas vraiment là, de portrait, rien, tu sais, parce qu'eux autres, ils ont leur cagoule sur la tête. Puis, en tout cas, ils savent pas, là, c'est qui les voleurs. Puis, dans le fond, leur idée, c'est comme ils savent à quelque part, en étant très tôt le matin, très tôt le matin, c'est comme, je veux dire, souvent quand les portes ouvrent dans n'importe quel commerce, il y a toujours quelqu'un qui attend à la porte, mais ça, c'est comme tous des petits villages, puis où est-ce que le monde ne sont pas encore réveillés le matin. En tout cas, je sais pas moi, ceux-là qu'on a, les banques qu'on a au Québec sont toujours ouvertes là, beaucoup plus tard que toutes les autres commerces, généralement. En tout cas, à moins que ça ait changé, là, c'est sûr qu'on ne va plus vraiment là, à la banque directement, là, à part pour certains rendez-vous là, spécifiques. Aujourd'hui, avec les guichets automatiques, tout ça, normalement, tout est automatisé, là, mais c'est ça. Avant, ben, quand tu allais au guichet automatique, ben, au comptoir, ben, Ça l'ouvrait genre à 10 heures le matin. Puis, tu sais, dans le fond, tout était ouvert pas mal avant que la banque elle ouvre, là. Mais c'est ça. En tout cas, c'est ce qui se passe, là, dans le fond, là, dans tous les villages, là, dans notre Texas, là, que... on veut montrer, là, puis c'est ça, tu sais, on peut commencer tranquillement à peut-être faire les morceaux, là, quand on arrive à deux banques, là, qui s'appellent Texas Midlands Bank, qu'il y a peut-être un lien, mais, en tout cas, ça m'a pris un bout, là, vraiment pour comprendre qu'il y a un lien, puis, tu sais, éventuellement, ben dans l'histoire, il nous arrive à nous l'expliquer que c'est vraiment quelque chose qui s'acharne à, spécifiquement à la Texas Midlands Bank, c'est ça, tu sais, ça aurait pu être quelque chose d'autre, là, parce que plus tard, éventuellement, ils se ramassent dans une autre banque, là, rapidement, parce qu'ils sont à côté, là, d'une autre banque, mais c'est un petit peu, c'est parce que, ben, c'est pour découvrir un peu c'est qui nos personnages, puis, tu sais, pour mettre ça clair, net, que c'est ça le plan, parce que, là, c'est ça, tu sais, on a un des frères, le Toby, que lui qui est joué là, par Chris Pine, que, ben, c'est bien sûr, moi je connais Chris Pine depuis 2009, et que j'ai vu, je pense, 5-3 fois, peut-être dans quelque chose d'autre, là, mais honnêtement, c'est sûr que c'est le Captain Kirk dans Star Trek, le nouveau timeline, le Kelvin timeline qu'on appelle, puis je l'ai vu dans rien d'autre, en tout cas de mémoire. Puis ça va être le fun de le voir aujourd'hui, de vraiment être quelque chose d'autre que le Captain Kirk ou sa version du Captain Kirk. Tu sais, éventuellement, je veux parler de Star Trek, là, des films. Vous savez que je parle de Star Trek pas mal à toutes les semaines, mais je parle pas des films de Star Trek. Puis quelque chose que j'ai peut-être ou peut-être pas embarqué là, dans un horaire, là, dans un avenir très proche, là, de commencer à couvrir là, les films de Star Trek. Puis, je trouve ça drôle aujourd'hui, ben, tu sais, de pouvoir avoir un autre point de repère sur M. Pine, même si je ne penserais pas couvrir le film là, de 2009 de Star Trek là, avant un bon bout, là, ben, peut-être là, dans plusieurs années, là, la manière que je veux arranger ça. Sauf que, c'est ça, tu sais, de voir une autre façade de l'acteur, que justement, il y avait juste 2 semaines et demie pour pouvoir filmer ses scènes dans le film aujourd'hui. Parce que justement, il devait aller filmer le troisième film de Star Trek, puis la contrainte de temps. Tout a été filmé, par contre, chronologiquement, puis ils ont dû juste comme vraiment se dépêcher, puis il a tout filmé. Ça paraîtra pas, honnêtement, je trouve que, tu sais, dans le fond, puisque c'est un peu le frère, ben, tu sais, c'est pas les deux frères ont sensiblement le même temps d'écran. Mais, tu sais, la manière que c'est fait, des fois, les frères sont séparés, tout ça, fait que ça allait, je pense, aider beaucoup là, pour ajuster les 2 semaines. Mais c'est ça, en tant que tel, là, je suis vraiment content de voir une autre façade là, de Chris Pine aujourd'hui. Puis voir que, tu sais, en tant qu'acteur, il a du talent. Puis qu'il est capable là, d'être autre chose que juste... Tu sais, je voyais vraiment pas là, le Captain Kirk là, dans sa performance. Je voyais autre chose. Puis c'est ce qu'il montre là, quand même là, en tant qu'acteur. C'est peut-être pas un grand, grand acteur. Il y a encore du chemin à faire. Sauf qu'il est capable là, au moins là, de faire la nuance dans ses personnages. L'acteur Ben Foster... que j'ai déjà couvert au podcast avec X-Men 3, que je me rappelle vraiment pas, là, honnêtement, son personnage. Oh, je crois que c'était le personnage là, de l'ange. En tout cas, je pense, mais je vois juste de mémoire, là, ça fait quand même au-dessus de 4 ans que j'ai couvert le film. Là, fait que j'ai pas réécouté le film là, depuis ce temps-là. J'ai revu aussi là, dans quelques affaires 310 à Yuma et le film là, de Punisher là, de 2004, mais ce film-là, je me rappelle pas du tout, là, en tout cas, qui va faire quand même une solide performance dans le film, là, comme le frère là, de Chris Pine. Lui, dans le fond, contrairement à son frère, que lui, sa vie est comme rangée, puis dans le fond, la motivation là, de Toby, c'est de pouvoir léguer quelque chose à ses enfants, malgré là, le passé, là, Il n'y a pas vraiment un passé controversé en tant que tel. Tout va quand même assez bien, là, mais il est divorcé. Puis, dans le fond, il n'a peut-être plus vraiment là, de direction. Il ne sait plus tout à fait où s'en aller. Mais au moins, il se dit, je vais léguer quelque chose à mes enfants. Puis, au moins, peut-être que ce qu'il va dire plus tard, c'est que il a été pauvre toute sa vie. Puis, ses parents avant lui, puis ses grands-parents aussi, puis tout ça. Puis à quelque part, ben, au moins de changer la tendance, que lui, il va peut-être encaisser le mauvais coup dans toute la lignée de sa famille, dans le fond. Puis finalement, ben, peut-être avoir un peu une meilleure vie pour ses enfants, dans le fond. Il va encaisser tout ça. Puis contrairement, ben, c'est ça, à son frère, là, Tanner, qui est joué là, par Ben Foster. Ben lui, il aurait descendu son père à quelque part pour probablement là, abus, puis en tout cas dans le fond là, que c'était pas une très très bonne personne et que finalement ben que c'est ça à quelque part ben il a fait 10 ans de tôle, ça fait un an qu'il est ressorti là, de prison. Et que lui, ben, c'est ça, tu sais, il n'est pas nécessairement là, tout le temps. Il est beaucoup plus impulsif que son frère. Généralement, quand il part tout d'un coup, là, un petit peu plus, c'est moins pensé. Ce qui va souvent être une erreur. Ça ne sera pas trop démontré pareil, parce que c'est éventuellement, ben, c'est ça, il va faire un vol de banque sans son frère, tout ça, tu sais, genre sur un coup de tête. Ça fera pas vraiment de dommages, mais en même temps, ben, ça va apporter là, la police un petit peu plus là, sur leur trousse, puis un peu plus, c'est plus apporter de danger envers eux autres. Mais c'est ça, en tout cas, l'interprétation aussi, puis ce qui était important aussi que je veux bien signaler là-dedans, c'est que même s'ils vont montrer qu'ils ont des fois et des fois, tu sais, puis qu'ils vont un peu chicaner, il y a vraiment une bonne chimie entre les deux acteurs. J'achète vraiment qui sont des frères. Là, je vais l'acheter vraiment là, de la manière là, qu'on a apporté le script. Dans le fond, ils s'en vont promener pas mal comme que deux frères vont faire. Mais en même temps, ben, il y a un amour profond entre ces deux personnages-là. Je l'achète vraiment tout le long du film. C'est ça qui puis, tu sais, il n'y a pas de nécessairement là, de tu sais, il y a des chicanes, mais pas des choses bien profondes en quelque part. C'est, je veux dire, ils se sont embarqués là, dans cette, en guillemets, là, ce projet-là et de voler des banques puis pouvoir régler là, plusieurs affaires pour leur avenir. Puis c'est principalement là, pour pouvoir pour le personnage là, de Toby puis pouvoir régler là, tout ce qui est dans le fond dans l'héritage de leur mère là, qui est décédée là, un peu avant le début du film, ben qu'elle a leur légué une ferme, là, la maison familiale, mais cette maison-là, ben dans le fond, elle doit encore de l'argent à la banque, et c'est ça, dans le fond, ben eux autres veulent régler ça, puis que finalement, ben tu sais, éventuellement, sachant que ils peuvent exploiter leur terrain pour, parce qu'il y a du pétrole qui est exploitable, fait que ils savent qu'en faisant ça, ben ils vont pouvoir devenir changer là, pas mal là, l'avenir des choses. Alors, c'est là qu'on a l'introduction de l'officier Marcus et de l'officier Alberto. L'officier Marcus, joué par nul autre que Jeff Bridges, que j'ai déjà couvert au podcast et que je vais recouvrir au podcast dans probablement au moins deux podcasts là, dans la prochaine année, je crois bien. Que dans le fond, c'est ça. Pour moi, comme si mettons, vous avez entendu parler là, vous avez entendu mon podcast là, avec Christophe là, sur King Kong 1976, vous savez que ce film-là est très cher pour moi. Alors, c'est ça, c'est dans le fond, M. Jeff Bridges, que j'ai pas toujours beaucoup suivi en tant que tel, mais quand il est là, je veux dire, j'apprécie, c'est toujours comme le haut point là, du film. L'acteur est nominé 7 fois aux Oscars et aurait été récompensé juste une fois, ce qui me surprend quand même beaucoup pour le film Crazy Heart, je pense, là, de 2009, là, en tout cas dans ces eaux-là. que j'ai vu, là, mais c'est vraiment là, quand même assez limité là, dans qu'est-ce que j'ai vu, là, quand même, là, de Monsieur Bridges. Mais c'est ça, tu sais, dans le fond, là, je suis dans en guillemets, dans une rétrospective on and off de Monsieur John Carpenter. Fait qu'éventuellement, je sais que je vais recouvrir, je vais couvrir pour la première fois au podcast là, le film Starman. Que je laisse mes pensées pour le podcast en question. Et éventuellement, je pense tranquillement embarquer là, dans une franchise de Marvel, puis couvrir le film de Iron Man là, de 2008, que j'ai peut-être ou peut-être pas mis dans ma cédule là, dans les prochaines semaines, prochains mois, dans le fond. Là, fait que ça fait deux fois que je dis ça aujourd'hui, mais en tout cas, c'est vraiment de la coïncidence pour Star Trek et Marvel, que peut-être et peut-être pas, en tout cas, faut que je recalcule, mais que on and off, là, ça serait probablement les deux franchises là, que je voudrais faire, là, vraiment comme peut-être en alternance ou en tout cas, comme, comme j'ai fait les slashers, comme que tu sais, le DC, que tu sais, j'ai fait ça, là, mais tu sais, un épisode à la fois pour éventuellement arriver à les couvrir. Mais c'est je dérape pour Monsieur Bridges. C'est ça, je suis bien content de l'avoir aujourd'hui. Je sais pas, tu sais, c'est vraiment là, le film là, est partagé entre Monsieur Bridges et Chris Pine. Dans le fond, c'est eux autres qui vont être les têtes d'affiche, là, je pense, dans tout le film. Et Monsieur Foster aussi, là, très second, deuxième. Mais c'est, t'sais, dans le fond, là, c'est assez important, là, de, je pense, avoir là, deux têtes, là, deux acteurs là, qui sont capables là, de nous tenir tête. Ça va aller juste à la fin du film, dans le fond, où ils vont se rencontrer face à face, qui va être, ironiquement, le dernier jour de tournage pour M. Pine et le premier jour de tournage pour M. Bridges. Alors, c'est ça, dans le fond. Là. Fait que, content de voir M. Bridges aujourd'hui. Et puis, Alberto, là, qui est joué là, par Gil Birmingham, que vous pouvez peut-être avoir vu, là, si vous avez vu, comme j'ai parlé tantôt, là, la série Yellowstone, bien, c'est quelque chose qui va éventuellement là, jouer dans cette série-là. Ou si, mettons, vous avez écouté Twilight, ben ça a l'air qu'il y a un rôle dans ces films-là, à quelque part. Je sais pas, je les ai vus, mais honnêtement, j'ai voulu à peu près... comme mes cheveux, ben cette mémoire-là est partie. Donc, c'est les deux acteurs, dans le fond, qu'eux autres aussi vont avoir un genre de va-et-vient en tant que tel de discussion qui va toujours un peu tourner dans le côté grisâtre. Que je me suis demandé, est-ce que le personnage là, de Jeff Bridges... Marcus, est-ce qu'il est, je ne veux pas dire raciste, mais est-ce que tu sais, il y a quelque chose là, contre les Comanches? Puis c'est ça, tu sais, c'est beaucoup là, ce côté-là, dans cette partie d'histoire-là qu'on va apporter les Comanches, même si on va le référer un petit peu avec le frère, avec le Tanner, là, le Ben Foster. Que lui, une fois, il va jouer aux cartes, puis il va avoir un Comanche à la table avec lui. Et que, tu sais, dans le fond, je me suis dit, est-ce que ça va un peu plus loin? Mais c'est là un peu que ça a commencé, là, tu sais, qu'il y a comme un peu une lumière là, qui a sonné, là, où est-ce que je me dis, hop, ben, tu sais, dans les deux bords, on parle de Comanche, il y a quelque chose là, qui joue en arrière de ça. Mais c'est plus une thématique en arrière. C'est vraiment pour embarquer là, dans la mentalité là, de ces personnages-là qui nous démontrent un peu, dans le fond, que qu'est-ce qu'on a sur place. Et il y a un temps, c'était les Comanches qui étaient là. Ils ont été tassés là, par les Américains. Et qui allaient devenir américains, dans le fond, là, mais qui ont été juste tassés et que finalement, ben, les Comanches doivent reprendre un peu le. Ils ne doivent pas reprendre leur place, mais qu'ils doivent vivre avec ça. Puis on a quand même un petit historique là, assez rapide là, un peu plus tard là, dans le film. Mais c'est ça, Jeff, quelque part, lui, je l'appelle Jeff ou ça se peut, j'appelle Marcus, là, c'est plus facile, là, je pense, pour moi de dire Jeff, là, mais parce qu'on se connaît en prénom, là. ça a l'air. Mais il va arriver souvent, là, puis il va lancer toujours des craques un petit peu envers Alberto, même dans sa scène d'introduction, il va se retourner de bord, puis il va dire « Ah, mais t'es habillé comme moi », puis Alberto va dire « Ben, tu sais, c'est notre uniforme », puis Alberto va dire « Oui, c'est... » Ben, Jeff va répondre « Mais tu sais, oui, mais tu sais, tu peux quand même t'habiller différemment, là, il n'y a pas vraiment là, d'uniforme là, pour la demande qu'on nous demande », puis... C'est ça, à quelque part, ben c'est comme si Alberto essaie là, de un peu se conformer un peu, là, t'sais, de suivre le système. Mais l'affaire, c'est que Jeff, lui, il est sur le bord de la retraite. Il est un petit peu tanné de tout. Puis à quelque part, il a tout vu. Mais c'est pas, il devient pas redondant et cliché. C'est ça que je pense qui était important, puis qui aurait pu vraiment virer dans le cliché. Je me suis longtemps attendu à ce qu'il y ait des choses qui virent tout le temps un peu dans des choses qu'on a déjà vues. Et que finalement, ben, ça ne vire pas à ça. Pour dire même, je m'attendais là, à ce que le film vire un petit peu là, comme... Il y a un film, là, je me rappelle pas exactement là, le nom du film, là, c'est Un monde meilleur, quelque chose de même, là, avec Kevin Costner, où ce que dans le fond, c'est un petit peu le même principe, où ce qu'on a Clint Eastwood, je pense, qui est à sa poursuite, et que finalement, ben, ça finit tragiquement. Là, puis je m'attendais que ça soit un peu ça là, comme idée. Là, Kevin Costner, lui, là, dans le fond, il y a comme... accidentellement, je pense, kidnapper un garçon, je ne me rappelle pas s'il est autiste ou quelque chose de même, là, mais il y a quelque chose, je l'ai vu juste en vidéocassette, là, une fois qu'il était sorti là, en quelque chose comme en 1992. Là. En tout cas, si ça vous dit quelque chose, mais je m'attendais un peu à un genre de remake de tout ça, un peu. Je pense que c'est pas nécessairement bien, bien loin de tout ça dans le film aujourd'hui. Mais t'sais, c'est pas un film complètement comme ça, là, on s'entend. Mais c'est ça, à quelque part, l'idée, là, c'est que toute la relation entre les deux officiers, ben c'est ça, t'sais, à quelque part, il est toujours en train d'y lancer des craques. Puis là, c'est ça, il y a un bout, je me dis, bon, OK, il blague avec, mais... est-ce qu'il y a comme un peu un côté là, de réalité puis qu'il il en veut un peu? Le personnage de Jeff va évoluer là, pendant le film. Puis, tu sais, dans le fond, lui, il s'attend à ce que ça soit sa relève. Puis, c'est ça, tu sais, à quelque part, ben, ça ne sera pas le cas. Lui, dans le fond, là, il reste 3 semaines. Puis, après ça, ben, tu sais, il va pouvoir passer à autre chose. Puis, il est comme en train là, de juste comme savourer un peu là, ses 3 dernières semaines. Mais c'est ça, il veut faire un peu là, sa place aussi là, envers Alberto, puis qu'en bout de ligne, ben, tu sais, là, il y a quelque chose un peu, il n'est pas tout seul, les deux sont sur la route, ils sont en train là, d'essayer là, d'investiguer là, sur nos deux voleurs. Puis c'est ça, ils vont se ramasser là, les deux endroits là, qui ont volé au début. Je saute un petit peu dans le timeline là, parce que j'ai pas encore parlé vraiment là, de ces cas-là, mais je vais revenir à nos deux frères un peu plus tard. Hein. Ils vont se demander aussi là, plus tard où est-ce qu'il va y avoir une autre banque qui va être mêlée là, de leur vol. Puis ils vont continuer à investiguer. Puis ils vont supposer là, qu'il y a une banque plus loin, qu'il est fermé dans le fond, là, cette banque-là qui est à... la ville de Coleman, qui est fermée, mais ils vont quand même se planter devant, pensant que nos voleurs vont se pointer à cette banque-là. Ça, là, j'ai pas tout à fait compris pourquoi qu'ils vont se planter devant cette banque-là, sachant qu'elle est fermée. Mais, parce qu'en bout de ligne, il n'y a aucun but à se pointer à une banque fermée, là. Il n'y a vraiment aucun but, là. Fait que eux autres, ils vont attendre là. T'sais, mettons qu'ils auraient découvert à quelque part que cette banque-là était fermée, éventuellement, ben là, ça aurait été autre chose. Mais c'est ça, c'est comme ils savent déjà. Là, fait que, tu sais, pourquoi qu'ils attendent là? Y a un moment qui est quand même assez le plaisant un peu à voir là, en même temps. Tu sais, pour aider, je pense aussi là, à la côté, là, la vie texane, qui se ramasse à un restaurant en face, là, le T-Bone Café. Puis la serveuse, c'est elle qui commande, c'est elle qui est sur place, c'est son restaurant. Ben, je sais pas si c'est elle qui est propriétaire, mais c'est elle qui sert depuis quelque chose comme 25 ans, elle dit, ou 40 ans, quelque chose de même. Puis elle dit que tout le monde qui est rentré dans le restaurant, eux autres, c'est ce qu'ils prennent. Ils prennent un T-bone avec des patates. Puis la seule affaire que, dans le fond, qu'ils ont comme option, c'est est-ce qu'ils veulent avec du blé d'Inde ou sans blé d'Inde, puis remplacer ça par des pois verts. Tu sais, c'est ça, dans le fond, la question en bout de ligne. Puis, ils n'ont même pas le choix de savoir s'ils l'ont, de quelle façon qu'ils veulent leur T-bone, saignant, bien cuit, en tout cas. Tu sais, c'est comme ça un peu. C'est démontrer un peu que chacun est chez eux, chez eux. Puis que, dans le fond, là, c'est sur le territoire d'un autre là, quand ils arrivent. Il y a eu un caméo aussi là, de l'écrivain en question, là, M. Sheridan, que je parlais un peu plus tôt. C'est lui, qui dans le fond, qui mène la troupe de vaches là, ou de bœufs qui traverse la rue là, à cause d'un feu. Ben, c'est l'écrivain en question que je parlais là, un peu plus tôt là, dans le podcast. Fait que c'est ça. Dans le fond, là, on va laisser là, les deux officiers là, tu sais, dans les hôtels et tout ça. Parce que, dans le fond, ils se chicanent tout le long pareil. Ben pas chicanent, là, mais où ce que dans le fond, Jeff veut prendre comme le contrôle. Dans le fond, là, c'est lui qui est là. Puis c'est ça. Dans le fond, il veut. C'est pas, on dirait qu'il veut vraiment écœurer Alberto, mais tu sais, il veut montrer qu'il a sa place. Puis c'est comme quand ils sont à l'hôtel, ben. Alberto écoute un programme religieux, puis Jeff, il dit, non, j'écoute pas un programme religieux, tu vas écouter qu'est-ce que moi, je vais écouter, parce que c'est moi qui tu sais, c'est mon poste, c'est moi qui décide, c'est un peu ça, mais c'est ça, tu sais, à quelque part, Alberto, là, il reste quand même professionnel là-dedans, mais c'est ça, éventuellement, ben, tu sais, Jeff va un peu comprendre un peu le point de vue là, d'Alberto. Quand il va lui expliquer quand même là, ben, t'sais, quelque chose qu'il doit déjà savoir, mais quand même, Alberto va lui expliquer quand même là, que t'sais, il n'a pas enduré vraiment là, toutes les niaiseries là, de Jeff Bridges. Puis il va rester là, le plus professionnel, si on veut, là-dessus tout le long, à quelque part. On va dire, t'sais, dans le fond, là, on s'est fait tasser, puis. Tu sais, si mettons, si c'était pas là, de les banques, ben, on serait encore là, dans le fond. Là, c'est ça, en bout de ligne. Fait que, on va prendre sur les frères, dans le fond, qu'est-ce qui se passe pas mal là, dans toute la deuxième acte. Les frères, là, ben, c'est ça, ils planifient là, de leur voler là, une autre banque. Dans les jours qui suivent. Ce qu'ils prennent, dans le fond, au début, on les voit là, avec, c'est une Camaro, une Transam, je ne suis pas trop sûr là, de quelle voiture que c'est. Puis, dans le fond, ils vont l'enterrer là, dans leur terrain, dans le fond, puis il y a comme un tracteur là, avec une pelle, puis ils ont fait un énorme trou, puis ils enterrent la voiture. Ils partent avec une autre voiture, ils vont au restaurant, dans le fond. Il y a la serveuse, dans le fond, là, qui, je dois le dire, dans le fond, là, elle aperçoit le Captain Kirk et, dans le fond, elle est carrément là, hypnotisée là, par le capitaine et finalement, ben, elle doit l'aborder. C'est quasiment trop à quelque part, là, où c'est que c'est pour ça que je dis vraiment le Captain Kirk, c'est pour ça que, je veux dire, elle arrive, puis, tu sais, je veux dire, elle est prête à y ouvrir une porte, là, puis, tu sais, peut-être que la dame, ben, c'est ça qu'on peut comprendre aussi, là, que, tu sais, c'est une mère célibataire, puis, tu sais, ils ont besoin, là, d'un... je sais pas, tu sais, ils ont laissé un pourboire, là, de 200$ à la dame. Je crois que c'est par la suite de tout ça, mais c'est ça, à quelque part, il y a quelque chose un peu, puis elle va prendre un peu son côté un peu plus tard. C'est sûr que 200$, vu de même, tu sais, quelque part, tu ne veux pas nécessairement là, être méchant envers la personne là, qui t'a donné un bon pourboire. Mais c'est ça, à quelque part. En tout cas, parenthèse de même, rendu en 2023, quand on met le pourboire sur une. Le pourboire là, de 15% là, sur la n'importe quelle facture, ça semble tout le temps être un pourboire de 200$ maintenant, là, mais en tout cas, retournant en 2015-2016, c'était quand même une somme, mais en tout cas, c'est du sarcasme. C'est ça, fait que pendant qu'ils sont en train là, de finir de manger, dans le fond, le personnage de Tanner, là, joué par Ben Foster, lui aperçoit qu'il y a une banque en arrière, puis Toby vient de parler, là, dans le fond, là, de qu'est-ce qu'il devait encore à son ancienne femme, dans le fond, puis qu'il doit, là, qui est en retard là, dans ses paiements là, de garde, dans le fond. Et que Ben, lui, là, il va aller voler là, la banque en face. Ce qui m'apporte, dans le fond, à la commis qui est à la banque, dans le fond, j'ai regardé l'actrice, puis je me dis, elle me dit quelque chose, puis je suis pas mal sûr de l'avoir couvert au podcast. C'est l'actrice, dans le fond, là, qui a joué là, dans le film de Prey, que j'ai couvert l'année passée ou l'autre année avant, là, le dernier film de Predator, puis que, dans le fond, je pense qu'il y avait pas mal une thématique un peu avec les Comanches, tout ça. Je pense que même ce film-là, on pouvait l'écouter en Comanche comme langage. Fait que, tu sais, c'est comme un peu tout, c'est la boucle, là, quelque part, là, peut-être, là, tout ça. Mais c'est ça, à quelque part, c'est juste un petit peu, parce que c'est juste pour avoir un petit extra. Ce qu'on va comprendre, pareil, là, c'est pas une somme astronomique là, comme montant là, qui vont quand même voler. Là, c'est plusieurs milliers de dollars. C'est pour ça que le FBI ne veut pas partir à leur poursuite. C'est pas assez. Là, c'est pas quelque chose là, qui est assez. Dans le fond, ça doit être la police du coin là, qui doit s'occuper là, de nos voleurs, tout simplement. Ce que j'aime par contre, c'est quand M. Foster qui sort de la banque, Chris Pine, dans le fond, là, lui, il s'en rend pas compte du tout. Il est pas, je veux dire, lui, il sort du restaurant, puis dans le fond, il s'en va tranquillement à la voiture. Puis là, Tanner, son frère, il se met à crier, il faut pas la voiture, tout ça, on s'en va, tout ça. Chris Pine qui se met tout d'un coup courir, il comprend qu'est-ce qui vient de se passer. Alors, mais en voyant Ben Foster, dans le fond, courir, il y a plein d'argent qui s'envole dans le fond, là, parce qu'il est comme parti les bras pleins, puis, tu sais, dans le fond, sans aucune organisation. L'argent, elle revole partout, mais c'est ça, en tout cas, j'ai trouvé ça bien drôle. Je pense que c'est pas mal le seul moment drôle du film. En tout cas, c'est un petit peu, c'est vraiment ridicule de voir ça. Pour un film qui est quand même assez sérieux, il y a des moments... tu sais, peut-être plus léger un peu, mais c'est ça, tu sais, pour dire que c'est un peu drôle, c'est en tout cas, celui-là là, m'a quand même fait sourire là, de voir là, qu'il vole l'argent, mais en même temps, il est en train d'en échapper quasiment à moitié, là, en train de se rendre à la voiture. Mais c'est ça, fait que eux autres, ils vont partir de là. Ce qui est étonnant là-dedans, c'est que, dans le fond, le personnage de Chris Pine, lui, il a organisé ça, dans le fond, là, pour que ça marche étape par étape. Il veut pas, tu sais, il veut pas se faire pogner. Tandis que son frère, lui, il sait qu'éventuellement, ils vont se faire pogner. C'est comme ça, il dit, il n'y a personne qui connaît qui s'est jamais fait pogner. C'est sûr qu'il est en prison, à quelque part, probablement que les gens en prison, ils disent qu'ils se sont fait pogner, tu sais, c'est pas mal sûr. Il n'y a personne qui est pas... Ben, du coup, c'est ce qu'ils disent à quelque part, là, qui sont pas coupables, là. Mais le côté, c'est quand même le côté là, de... évidemment, ça, ils se sont fait coincer à quelque part, là. C'est ça que je vais en venir à dire. Alors, tu sais, puis là, à quelque part, je me dis, il s'arrange pour se faire pogner. À quelque part, il laisse un peu trop de traces, il est négligent aussi. Puis c'est ça qui fâche un petit peu Chris Pine. Mais malgré tout, ben c'est ça, tu sais, ce qui est le fun là-dedans, c'est que même si ça le fâche, puis ils doivent avoir changé de voiture. Éventuellement, ils vont devoir acheter une autre voiture aussi là, pour... je ne sais pas exactement quoi. C'est plus pour faire le transfert de voiture aussi. Dans le fond, ils vont acheter un vieux Bronco, puis ils vont laisser l'autre voiture sur le bord de la route. Et finalement, ben c'est ça. T'sais, à quelque part, la voiture qui est laissée sur le bord de la route est carrément sur le bord de la route. Peut-être qu'il pourrait arriver un officier qui passe et dit « Bon, cette voiture-là n'a pas rapport là. » On va la faire remorquer, mais en tout cas, c'est pas, ça n'arrive pas, tout simplement. Mais il achète une autre voiture à cause de tout ça. Et pour finalement là, pouvoir changer de voiture puis pouvoir se sauver. Là, en tout cas, c'est le but de tout ça. Sauf que ils doivent dépenser de l'argent là, pour cette voiture-là. Dans le fond, c'est vraiment juste pour un aller. Il faut que la voiture elle marche là, pour quelques heures, puis c'est tout. Là. Qui est quand même le fun, c'est leur manière là, de comme blanchir l'argent là, dans le fond là, pour un peu cacher leurs traces. Après ça, ben, t'sais, ils se ramassent dans un casino, ils font virer l'argent en jetons. Ils attendent un peu, dans le fond. Là, Toby reste au bar. Éventuellement, il se fait même aborder là, par une prostituée. Puis, t'sais, dans le fond, lui, il veut garder son argent tout de suite. En tout cas, on voit qu'il est quand même, en guillemets, les morales aux bonnes places. Peut-être, là, en tout cas, je veux dire, il est célibataire. Il a peut-être besoin là, de un petit peu là, de plaisir. Là, mais, en tout cas, c'est on voit qu'il veut juste être guidé un peu là, par... les bonnes choses, okay, quelque part, là, okay, qu'il n'y a pas vraiment là, de côté. En tout cas, c'est en tant que tel, là, je ne vois pas exactement. En tout cas, c'est ce que je peux voir, là, mais en tant que tel, je n'ai pas de, nécessairement là, de problème contre ça. En tant que tel, là, il y a le droit là, d'avoir besoin d'un peu là, d'affection aussi. Là. Mais c'est ça, à quelque part, ce qui quand même le garde, c'est que il a besoin, là, il veut garder son argent tout simplement, puis que son frère, il se rend compte de ça un peu. Ben, t'sais, il dit quand même que t'sais, il pourrait quand même un peu passer son argent dans le casino, tout ça, puis dans le fond, c'est pas ça qu'il veut. Dans le fond, il veut payer les affaires. Il est pas mal guidé par ça. C'est vraiment ses enfants qu'il veut placer là, éventuellement pour qu'il ait un meilleur avenir que lui. C'est ça, tu sais, ce qu'ils font, c'est ça, c'est qu'ils attendent là un peu, quelques heures, ou en tout cas, peu importe quel temps, puis après ça, ben, tu sais, ils rencaissent, là, dans le fond, les jetons, et ils font un chèque, puis qu'ils peuvent encaisser, là, puis rentrer, là, dans leur compte de banque, puis c'est comme ni vu ni connu. Et c'est comme ça que, dans le fond, qu'ils réussissent à comme cacher, dans le fond, l'argent qu'ils ont volé. Je sais pas si c'est faisable. Honnêtement, je me dis que c'est ben trop facile, quelque part. Mais peut-être que ça se fait, je sais pas. T'sais, c'est comme la fille a dit, ils prennent n'importe quel argent quand même, qu'ils payent en argent ou pas. Ils s'en foutent, l'argent, c'est de l'argent. Fait que rendu là, ben c'est quand même beaucoup de milliers de dollars. En tout cas, c'est peut-être qu'ils font par coup aussi. Ils vont à plusieurs places. C'est peut-être ce qu'ils font. Mais c'est ça. Quelque part, là, y a aussi quelqu'un quand même qui travaille à la banque ou qui est de leur côté aussi. Fait que ça l'aide aussi un peu à cacher là, toutes les transactions. Puis qu'il n'y ait pas trop de questions qui se posent. Alors, on arrive pas mal là, au dernier acte. Nos officiers, Marcus déduit que la banque qui observe, qui est fermée, ben tu sais, que nos voleurs vont pas se pointer là, à Coleman. Dans le fond, nos frères, eux autres, je pense qu'ils s'en rendent, ils savent pas, dans le fond, que cette banque-là est fermée. Il arrive là, à une banque là, dans un village, là, Jayton, je pense que ça s'appelle... que finalement, ben, t'sais, qui est fermé. Puis c'est ça, dans le fond, ça démontre là, qu'ils ne savent pas exactement. Sauf que les officiers, eux autres, ne peuvent pas savoir s'ils savent que c'est fermé. Là, fait que ils vont comme par déduction. Dans le fond, il y a 7 banques par la Texas Midlands Bank. Il y en a une, c'est la première banque, là, la principale, donc qui est probablement trop armée, des affaires de même, mais elle est plus grosse. Fait que il suppose qu'il n'y a pas juste 2 personnes là, qui pourraient se pointer là, pour faire un vol de banque, qui savent que c'est probablement là, hors de leur portée. Puis de toute façon, depuis le début, ils sont toujours en train là, de viser une petite banque. Fait que ils écartent la première banque. Ils savent que sur les sept banques, dans le fond, les deux premières ont déjà été attaquées. Il y en a deux de fermées. Et qu'il y en a une autre là, qui est à Childress, que elle est trop grosse aussi. Le village est trop gros. Fait que. Et par déduction, ben tu sais, ils savent que la banque qui est à la ville de Post, ben serait probablement la prochaine cible. Mais c'est ça. Fait que tu sais, ils déduisent ça le matin même que finalement nos frères arrivent à la banque de Post. C'était. Dans le fond, c'est produit, dans le fond. Eux autres, ils attendaient à la banque de Coleman. Puis. Nos frères allaient à la banque de Jayton, puis c'est ça, ils se rendent compte qu'elle est fermée, puis là, ben, tu sais, on va aller à Coleman. Puis en chemin, ben, Tanner arrive et il dit, ben là, tu sais, regarde, on va aller à la poste à la place. Puis on va essayer de faire les deux, on va se faire un peu plus d'argent, tout ça. Puis Toby va arriver, il va dire, ben non, tu sais, c'est parce qu'on va arriver là, à l'heure de dîner là, sur. À la ville de Coleman, puis tu sais, c'est pas ça qu'on veut faire, tu sais, des fois, il va y avoir ben trop de monde. Fait qu'il arrive au village de Post, puis c'est ça, justement, c'est pas l'heure du dîner, puis c'est pas l'heure de pointe, mais en tout cas, il y a déjà beaucoup de monde. Je dirais que le vol de banque, tu sais, c'est pas tension, dans le fond, là, en tant que tel, là, c'est un petit peu moins organisé, c'est beaucoup improvisé, mettons. Mais tu sais, le fait que c'est une petite banque, ben tu sais, ils peuvent. C'est pas le même déroulement là, qu'une grande banque, là, pareil comme qu'on a vu là, dans le film de tension là, avec Al Pacino et Robert De Niro. Là. Mais tu sais, je veux dire, c'est, j'aime quand même le petit côté là, de. Je veux dire, c'est une petite banque, c'est pas. La manière que c'est apporté, là, c'est quand même efficace, là, tout ça. Puis tu sais, je veux dire, on sent un peu là, de tension là-dedans. Au travers de ça, ben la fille qui texte, il y a une fille qui texte là, pour pour dire à son père là, que la banque est sous ben qu'il y a des voleurs dans le fond. Elle, c'est la personne là, qui a choix qui est l'assistante là, de le casting director, là, la personne là, qui embauche les acteurs, là, qui est chargée là, de trouver les acteurs pour le film. C'est un genre de caméo, on peut dire. Mais c'est ça, quelque chose qu'on pouvait s'attendre là, éventuellement, qu'on est toujours en train là, de risquer gros à chaque fois, puis on risque tout le temps un petit peu plus. Ben éventuellement, ben c'est ça qui arrive. On sait que finalement, il va se passer un drame éventuellement. On ne l'avait pas vu au début, puis on se posait des questions, puis éventuellement, ben tu sais, est-ce que ça allait être la fille au comptoir de l'autre banque là, en face du restaurant? Finalement, tu sais, il s'est rien produit. Puis on avait même une fois où ils sont arrêtés, là, une station-service où il y avait il y avait deux jeunes qui sont arrivés là, avec une voiture, puis qui cherchaient un petit peu de trouble là, avec de la bonne musique qui jouait, et que finalement, ils cherchaient un petit peu le trouble, puis je veux dire, essayer là, pour de juste acharner un petit peu là, le personnage de Tanner. Et que lui, le conducteur, il sort un fusil là, un petit peu là, pour genre montrer là, que bro, tu gardes, moi j'ai un fusil, là, que si maintenant là, tu veux faire des niaiseries, ben, je vais te tirer. Finalement, Chris Pine sort de la station service et ramasse là, le conducteur, tout ça. Petite scène un petit peu pas rapport, mais je pense que c'est pour montrer aussi que les deux se tiennent, puis qu'aussi Chris Pine il est prêt à se défendre, tout ça. S'il y a quelque chose, puis tu sais, est-ce que c'est puis tu sais, à quelque part, je me demandais aussi si matin il allait pas se passer quelque chose là, de un drame à cet endroit-là. Mais c'est à quelque part aussi, tu sais, ils vont parler là, du Dr. Pepper et du le Dr. Pibb. Tu as un breuvage que je bois pas, je sais même pas si on en a ici là, au Canada. Mais la blague, là, c'est que dans le fond, c'est un genre de. Pas révolte, là, mais c'est pour une manière là, de toutes les Texans ne boivent pas autre chose là, que du Dr. Pepper parce que le Dr. Pepper vient du Texas. Fait que tu sais, c'est un petit peu là, juste pour dire qu'on est au Texas puis on boit du Dr. Pepper. Fait que c'était pas mal ça pour toute la scène un peu. C'est juste pour rajouter, je pense, là, de la culture là, texane au film. Mais c'est ça, à quelque part, ben, on savait qu'éventuellement, là, à force là, de tous ces petits incidents-là, éventuellement, quelqu'un allait se blesser ou pire que ça, que finalement, ben, quelqu'un allait se faire tuer. Et c'est ce qui arrive, dans le fond, on a le gardien de sécurité que lui, éventuellement, qui arrive, puis qu'il essaie là, d'arrêter là, les deux frères. Lui, il va se faire tuer là, royalement, quelque part. Là. Je ne sais pas exactement, c'est parce que la manière que c'est filmé, c'est pas très clair. C'est comme s'il s'est mis à sortir son fusil puis à courir dans un passage. Et Ben Foster s'est juste mis à tirer dessus. Je pense que le gardien de sécurité n'a pas nécessairement là, la formation pour ça ou avait pas la formation. Là, je pense que c'est le bon terme à dire plutôt. Puis à quelque part, il a juste paniqué tout simplement. Puis il y avait quelqu'un, dans le fond, un des otages, que lui, il était armé et que, dans le fond, il a voulu se défendre et que finalement, ben, t'sais, encore une fois, le personnage là, de Ben Foster va descendre l'otage en question. J'ai quand même assez. Je me suis rassuré de savoir que c'était bien le personnage de Tanner. Parce que ça se produit tellement vite que je pensais que peut-être les deux frères allaient devoir tuer quelqu'un. Mais non, c'est vraiment le personnage de Tanner qui va descendre là, les deux personnes. Ils vont partir de là, mais à cause de la fille qui a texté, ben genre le père est en dehors. Ben, supposément que peut-être que la fille est rentrée et que dans le fond, son père l'attendait à l'extérieur. Fait qu'ils vont se ramasser avec une poursuite là, de cinq camions qui vont poursuivre nos deux frères. Là-dedans, ben Toby a quand même reçu un projectile. Fait que lui, il est blessé, mais tu sais, c'est une balle perdue, mais que tu sais, qui n'est pas fatale, dans le fond. Il va quand même réussir assez rapidement là, à se replacer. Mais tu sais, à quelque part, il faut qu'il fasse quelque chose. Mais c'est ça, à quelque part. Là, tu sais, il est quand même touché et il perd du sang. Fait que éventuellement, ben, le personnage, là, ils vont arriver à l'intersection là, où ils ont leur voiture. Mais juste un petit peu avant de tout ça. Ils doivent laisser le bronco, là, puis à quelque part, puis ils doivent aussi semer là, les cinq voitures pour pas qu'ils voient justement dans quelle voiture qu'ils partent avec. Il va y avoir une scène assez badass, dans le fond, là, de Tanner, que lui va sortir une genre de carabine, puis comme tirer sur les cinq voitures qui les poursuivent. Selon ce que je peux comprendre, dans le fond, il y a une technique qui est utilisée. C'est vraiment, dans le fond, c'est, si tu sais qu'est-ce que tu regardes, tu vas comprendre. Mais tu sais, quand t'es comme moi, tu y connais absolument rien en arme à feu, à part un fusil, puis un revolver, puis je veux dire un Magnum, puis je sais pas, un AK-47 ou un M16. Ça se limite pas mal à ça en tant que tel, de ma connaissance. Il doit y en avoir une couple d'autres. Ah oui, un Walter PPK, bien sûr. Mais à part de ça, là, je connais pas bien d'autres choses. Mais en tout cas, dans le fond, il va utiliser une technique, dans le fond, pour tirer. Puis que, dans le fond, il laisse tout le temps une balle dans le chargeur qui aide à faire la rapidité. J'avais remarqué, par contre, que je trouvais que c'était assez rapide pour recharger tout ça. Mais c'est ça, en tout cas, il y a quelqu'un qui a vraiment compté toutes les balles et tout ça. Puis que, dans le fond, il laisse tout le temps une balle dans le chargeur et que ça facilite, dans le fond, le rechargement plus rapide. Mais c'est ça, à quelque part, là, on dirait vraiment un Terminator qui sort et qui se met à tirer sur les voitures. Et que, finalement, ben, c'est ça, toutes les autres voitures vont se retourner de bord et se sauver. Puis nos deux frères vont partir et changer leur voiture. Mais ça va être le moment décisif un peu. Puis, tu sais, on va pas éternaliser ça. On va pas mettre la grosse musique dramatique dans le fond. Puis, tu sais, dans le fond, est-ce que nos deux frères vont se séparer. Et que finalement, ben, c'est le moment où ils vont se dire ben garde, moi je vais prendre dans le fond de la police qui va me courir après, ça va être sur mon dos. Puis dans le fond, tu vas pouvoir partir de ton bar. Fait que Toby, lui, va partir là, dans sa voiture. Que il y a une lumière brûlée. Et je signale ça parce qu'il va arriver à un contrôle routier. Puis, tu sais, dans le fond, même, tu sais, il va se faire demander ses cartes, même s'il y a le côté là, qui saigne comme tout. Il a réussi à se laver les mains, hein, quelque part, puis pas tout, tu sais, je veux dire, à quelque part, il est plein de sang. Je sais pas comment il a fait pour tout se nettoyer, puis pas, dans le fond, tout salir son permis de conduire, tout ça. Tu sais, une goutte de sang, quelque part, là, ça, je veux dire, ça aurait paru tout de suite, là, en tout cas. Je sais pas, tu sais, il y avait des wipes quelque part dans sa voiture, je sais pas exactement là, comment, là, parce que je me suis dit, c'est logiquement impossible qu'il réussisse à tout bien se nettoyer là, avec ça, là. Tu sais, je veux dire, c'est trop apparent quelque part, là, tu sais, je veux dire, il saigne, là, fait que réussir à se nettoyer puis à tout cacher, là, c'est un peu, c'est très peu probable. Et avec la police, dans le fond, qui perd un peu son temps, puis tu sais, de commencer à demander le permis de conduire. Puis la voiture qui veut pas repartir, je me suis dit, tu sais, il y a plusieurs affaires qui font que la voiture, elle pourrait être arrêtée pour n'importe quelle raison. Et finalement, ben, ça arrive pas, hein, quelque part, il y a aucune raison. La voiture a de l'air à avoir un 2 secondes de délai avant de finalement partir. Puis, ben, c'est ça, à quelque part, Toby réussit à sommer là, toute la police et à partir là, de son côté. Pendant que, finalement, ben, son frère Tanner, lui, ben, c'est ça, dans le fond, il va essayer là, d'attirer toute la police avec lui parce qu'il en même temps, il y a la police, la voiture. Qui a été utilisé là, pour faire le vol de banque. Dans le fond, il va la détruire. Là, il va monter une butte, puis dans le fond, il va tirer le bric-à-brac. Puis dans le fond, la voiture va reculer là, dans d'autres voitures de police. Mais il va avoir quand même gardé là, un fusil là, de tireur d'élite avec lui. Je ne sais pas si c'était le même fusil que tantôt, puis c'est juste comme une genre là, d'option différente dessus. Là. Ça, j'ai pas remarqué ça. Mais... il va quand même tirer un peu partout. Là, est-ce qu'il voulait être meurtrier? C'est sûr qu'il compte ses balles, tout ça. Mais quelque part, il y a une balle qui va finalement là, tuer là, Alberto. Je m'attendais pas tout à fait à ça. J'avais peur un peu au cliché du policier qui doit arriver à la retraite. Puis je pensais ça qu'on voulait apporter. Le policier à la retraite, que finalement, il meurt juste comme au dernier jour. C'est un cliché, mais en même temps, c'est quelque chose qui arrive dans la vraie vie. Quelque part, ça arrive plus souvent là, que pas. Là, ça a l'air, en tout cas, ben, peut-être pas pour plus de chance, là, mais vous comprenez ce que je veux dire. Ça arrive quand même assez souvent là, comparativement là, à ce qu'on peut penser, puis que c'est pas nécessairement un cliché. Mais c'est ça. Fait que Alberto se fait descendre là, assez rapidement. Là, je veux dire, il n'y a pas de. C'est vraiment banal, quelque part. Puis bien sûr, pendant ce temps-là, ben Jeff, il est en train là, d'y lancer encore une affaire là, contre. Ben, pas contre, mais tu sais, quelque chose là, juste envers Alberto. Là, il dit fais le tour, là, puis fais le tomahawk, là, tout ça, puis tu sais, avec lui. Mais en disant ça, ben Alberto. Il reçoit carrément là, une balle entre les... ben, tu sais, je pense que ça y rentre dans l'œil, là, ça y rentre carrément là, dans la tête. Et il meurt sur le coup, instantané. Ça brasse quand même Jeff. Tu sais, dans le fond, dans sa performance, on voit un petit peu de panique de la manière là, qu'il va jouer le personnage. Quelque chose que je trouve ça le fun, à quelque part. Que, tu sais, des fois, on voit des moments qui n'ont pas l'air d'être trop scriptés. Puis, tu sais, dans le fond, ça n'a pas l'air d'être une performance. C'est juste comme, tu sais, vraiment, il est un petit peu en panique. Il y a comme un petit cri qui lâche que j'ai quand même aimé. Fait que, éventuellement, ben, c'est, il va faire le tour avec un des policiers, là, que lui, il a ses carabines. Puis, tu sais, il va y emprunter sa carabine, même s'il y a quand même là, quelque chose comme 500 verges, là, comme distance. Éventuellement, ben le personnage là, de Jeff va descendre de Tanner d'un coup, tout simplement. Il n'y a pas vraiment là, de grosse fusillade. Ben, la fusillade est que finalement ben, que Tanner essayait là, de tirer tout le monde, faire peur aux gens. Mais c'est ça, éventuellement. C'était peut-être un accident d'avoir tué. Le personnage là, d'Alberto, c'était peut-être pas quelque chose là, qui a visé. Là, c'est juste, ben, quelque part, il y a il y a une cible sur son ben, tu sais, il y a comme un télescope là, pour montrer où ce qu'il tire. Fait que, tu sais, il y a pas. C'est un peu attendu qu'il allait tirer quelqu'un. Quelque part, là, il tirait pas là, dans le beurre. Mais, tu sais, suite à la mort d'Alberto, Tanner. se met à tirer un peu partout aussi, puis tu sais, il tire personne d'autre, là. Fait que, tu sais, il y a juste une personne qui est mort là-dedans, malheureusement, puis c'est ça, c'est le personnage d'Alberto, puis tu sais, c'est peut-être un peu une genre de symbolique aussi, qui en bout de ligne, dans tout ça, là, dans tout ce qui se passe, là, c'est le Comanche qui se fait assassiner, là, après tout ce qui se déroule. Peu importe toute la situation, ben c'est ça. Tu sais, je veux dire, c'est le Comanche qui a été tué dans tout ça. Puis c'est ça, est-ce que c'était un peu une idée là, qu'ils ont passé, là, qu'ils voulaient passer? Là, je ne serais pas surpris à quelque part que c'était ça l'idée. Montrer là, qu'après tout, ben, tu sais, les autres conflits, ben, c'est peu importe qu'ils sont impliqués ou pas, ben c'est lui, là, dans le fond, là, qui a écopé là, avec sa vie. Là. Alors, Toby, ben c'est ça, tu sais, il va partir de cette... réussir à éviter là, la police, puis dans le fond, il va se ramasser au casino en train de changer son argent, puis que finalement, il va entendre là, un reportage là, à la télé que finalement, ben, t'sais, son frère s'est fait descendre. Il va aller à la banque, il va aller changer l'argent, il va payer tout, dans le fond, l'argent qui est dû. Que dans le fond, la terre, elle va y appartenir à lui, puis que finalement, ben, qu'il va léguer à ses enfants. Il va payer ses arrérages aussi là, à sa femme. Tout va être payé. Dans le fond, il ne va plus devoir absolument rien. Tu sais, il y a un bout où ce qu'on a vu sa femme et ses enfants là, au courant du film. Je m'attendais à peut-être une chicane, quelque chose de même. C'est, je veux dire, à quelque part, d'après moi, il y a quand même une bonne relation avec son ex-femme. Il n'y a pas de chicane du tout. Mais c'est ça à quelque part aussi dit, on a vu un de ses garçons que lui dans le fond il est comme un peu fâché parce que ça fait quand même un an qu'il n'a pas vu son père. Il parle quand même un peu au téléphone, mais c'est juste un détail qui passe quand même. T'sais, il apporte une bière. Le Texas, c'est un des seuls état que dans le fond qui est autorisé à ce que des mineurs puissent boire de la bière là, en tout cas, je lisais ça là, je me suis dit je sais pas c'est quoi, je sais pas, au Québec on a le droit je pense là, en tant que tel là, ben, quand c'est privé là, à quelque part, mais le Texas là, c'est, je veux dire, c'est bien marqué là, privé, ils ont le droit tout ça, en tout cas, fait que, en tout cas c'est pas exactement là, les mêmes normes là, qu'au Québec là, je peux comprendre. Mais c'est ça, à quelque part, tu sais, puis il va y dire, fais pas le même chemin que j'ai fait. Tout ce que tu vas entendre, ben, tu sais, je l'ai fait. Puis, tu sais, son garçon, il dit, ben, tu sais, garde, je ne vais pas y croire, tout ça. Puis, tu sais, je trouve ça le fun parce que c'est le cliché, à quelque part, qu'on peut se dire que, dans le fond, son père, c'est un bon gars, puis tout ça. Mais le Chris Pine veut quand même montrer que non, il a vraiment pas fait des bonnes choses. Puis, tu sais, comprends-le. Mais qu'en même temps, ben, tu sais, il l'a fait pour les bonnes raisons. Pareil. Je sais pas si c'est un bon message pareil. Tu sais, j'ai fait des mauvaises choses pour des bonnes raisons. Je sais pas. Tu sais, on la garde là, dans les deux sens. Tu sais, on peut faire toutes des mauvaises affaires pour les bonnes raisons, mais tu sais, ça l'excuse pas nécessairement les mauvaises affaires. Mais c'est ça, à quelque part, il va léguer quand même tout à ses enfants éventuellement. Mais pour finir pour la bière, ben c'est ça, tu sais, il dit, fais pas qu'est-ce que j'ai fait. Puis c'est son garçon, il dit, ben tu sais, regarde, tu me dis de pas faire comme, pas partir sur des mauvaises manières, ben tu sais, offre-moi pas de bière à quelque part, là, tu sais. Puis du coup, c'est un peu ça, mais tu sais, je pense en même temps, c'est pour nous dire que, dans le fond, son garçon est quand même allumé aussi, là, puis que, tu sais, il a compris qu'est-ce que son père, il disait. Alors, il va se ramasser, là, au ranch. On est quelques temps après, là, probablement, là, quelques mois plus tard, peut-être même, voire des années, où ce qu'on a construit, là, ben, on a amené là, la machinerie là, pour pouvoir soutirer là, le pétrole là, du sol. Fait que ça, j'imagine, ça prend quand même un certain temps aussi, acheter les machines, les apporter, puis tout ça. Puis c'est installé, il y en a quand même quelques-unes là, dans les champs. Éventuellement, le personnage là, de Marcus, qui est tombé à la retraite, mais tu sais, il reste quand même un peu, tu sais, il fait là, sa vie là, de il reste assis là, sur son perron, il regarde le football à la télé, mais à quelque part, tu sais, ça devient redondant, puis il est quand même un peu hanté là, par qu'est-ce qui s'est passé là, dans le fond là, sur probablement là, sa dernière enquête. Puis dans le fond, il va aller visiter là, Toby là, sur sa ferme. Et ben c'est ça, dans le fond, on a finalement l'affront entre nos deux personnages. Comme j'ai dit, c'est le premier jour à M. Bridges sur le plateau de tournage. Ben le plateau en guillemets là. Ils n'ont pas filmé au Texas, ils ont filmé là, au Nouveau-Mexique, juste soi-disant. Mais c'est ça, c'est le dernier jour à M. Payne. Fait que lui, il a comme tout vécu ça. Puis, je trouve que c'est vraiment. J'ai parlé de tension tantôt. Ben, tu sais, il y a un affront là, entre les deux personnages où ils se rencontrent au restaurant. Puis, je veux dire, j'ai trouvé vraiment la rencontre entre les deux personnages un peu similaire. C'est un peu ce qu'il voulait dire, dans le fond, que là, tu sais, ils vont se rencontrer, puis qu'en bout de ligne, ben, tu sais, ça reste ouvert à la toute fin, si, mettons, ça va virer au sang, si, mettons, ils vont se battre, avoir un duel à la mort, quelque chose de même, là, dans le fond, là, mais, tu sais, puis il laisse ça là, dans le fond, là, il laisse ça dans l'air, tandis que, ben, tu sais, dans Tension, là, c'était vraiment pour expliquer que, tu sais, les deux ont le job à faire, puis, tu sais, si maintenant ils se recroisent, ça va finir de même, qu'ils n'hésiteront pas à se tuer, mais c'est un peu ça, je pense, aussi, c'est juste de la compréhension un peu dans les deux côtés, puis le personnage là, de Jeff veut comprendre pourquoi qu'il y a quatre personnes qui sont mortes, puis que, dans le fond, il y a quelqu'un qui s'est enrichi là-dedans. Dans le fond, le personnage de Payne, lui, il prend ça bien. Quelque part, il se dit, bon, ben, c'est pas moi qui a fait là, les mauvaises affaires, mais il y a quand même quatre personnes qui sont mortes dans tout ça à cause de son plan. Fait que tout a commencé à partir de lui. Fait que même s'il pense faire une bonne affaire, ben, il y a quand même quatre personnes qui sont mortes. Fait que, tu sais, en bout de ligne, là, il peut l'avoir sur la conscience. C'est pour ça que je me dis, Chris Pine arrive à la toute fin, puis dans le fond, tu sais, s'il devait avoir un duel, ça aurait été là sur le perron. Mais l'ex-femme à Pine et ses deux enfants arrivent à ce moment même, puis qui empêche dans le fond l'affront. Et c'est pour ça, dans le fond, que quelque part, je me dis, il n'y aura probablement pas d'affront. Mais quelque part, les deux vont vivre comme un peu plate de toute cette. Ben, ils vont être tentés là, par cette situation-là là, pour le restant de leur jour. Payne, probablement qu'il va en avoir plus devant lui. Mais il ouvre la porte. Je pense que ce qui à quelque part, pour pouvoir avoir le côté là, de mieux dormir la nuit, là, je pense qu'il offre justement à M. Bridges de venir le rencontrer, puis peut-être qu'éventuellement, là, il pourrait peut-être y mettre du plomb entre les deux yeux. Mais c'est quelque chose que je pense que M. Bridges n'aura pas besoin de faire. Je pense que juste en arrivant à l'endroit, puis il dit que, tu sais, garde, t'as du sang sur les mains, puis tu peux pas vivre bien avec ça, là. Puis je pense que c'est ça un peu qui va arriver, là, puis à quelque part, ben, tu sais, il va pouvoir se sentir mal de ça, éventuellement, puis il pourra pas dormir aussi bien là, qu'il le prétend là, la nuit. Là. Fait que ça finit, puis qu'en bout de ligne, ben, c'est ça, c'est ça qui est dommage d'un côté, qu'on n'a pas nécessairement de fin. Peut-être que éventuellement, là, M. Bridges, il s'est ramassé chez lui là, plus tard dans la journée ou la semaine suivante, quelque chose de même éventuellement. C'est une possibilité. Ça reste ouvert dans le fond, puis ça laisse notre interprétation à faire à la fin. C'est pas vraiment une question qu'on a besoin d'avoir une réponse. Je pense que les trois éventualités, c'est quelque chose qui peut vraiment être la solution. Payne qui se fait descendre finalement par M. Bridges, ou M. Bridges qui se fait descendre, ou que finalement, ben, il n'y en a jamais eu de rencontre. Puis moi, je vais pour ça, dans le fond, il n'y a pas de rencontre, tout simplement. Là. Fait que même s'ils disent qu'ils vont le faire, ben, il n'y a pas de rencontre. Puis si je pense que c'est la meilleure manière là, de finir le film. Mais c'est ça, fait que Le film est dédié là, aux parents là, du réalisateur qui sont décédés pendant le tournage du film. J'ai pas d'informations de savoir comment ils sont décédés, mais c'est sûr. Dans le fond, ils sont décédés là, pendant le film. Et ils ont. Tu sais, ça a l'air qu'il y a plusieurs. Là, sur les plaques de voiture, ça a l'air qu'on a les initiales, une coupe de place, tout ça, en tout cas, des parents. Fait que le film finit pas mal là. Alors, en conclusion, ben c'est un film que je l'ai écouté deux fois pour le podcast aujourd'hui. Puis, c'est un film que j'ai vraiment apprécié, là, voir pour les acteurs, pour la chimie qu'il y a entre les acteurs. J'ai à peu près rien à dire là, en côté négatif dans le film. Je veux dire, j'aime pas mal tout ce que j'ai vu. J'ai pas vraiment remarqué de longueur. Je veux dire, j'ai embarqué, puis je trouve que c'est un film. C'est peut-être pour ça aussi qu'on a, il a été oscarisé là, pour. Il a été nominé, excusez, pour son montage. Puis c'est un film qui avance tout le temps. Puis même au deuxième écoute, là, c'est quand même assez rapproché. Puis je veux dire, j'ai pas ressenti aucune longueur. C'est un film qui est très bien monté. J'embarque avec les deux groupes là, de personnages. Puis c'est monté là-dessus, dans le fond, c'est ça la force du film. C'est nos quatre personnages principaux. Dans le fond, l'interaction qu'ils ont là, de chacun de leur côté. Là, c'est ça. C'est sûr qu'il y a des petites affaires là, qui ne marchent pas tout à fait. Là, en tout cas, j'en ai parlé là, au courant du podcast. Mais c'est pas vraiment important. Là. En tout cas, j'ai compris le but, là, dans le fond. Là, comme surtout là, le côté pourquoi qu'ils passent toute une nuit devant une des banques qui est fermée. Ça sert à quoi? À quelque part, il n'y a aucune logique là-dedans. Mais, tu sais, c'est juste pour donner du temps, parce que s'il serait planté en face là, de la banque à poste, ben il aurait pu quand même arrêter sur place, puis ça aurait été directement, là, dans le fond, là, la fusillade sur place, puis ça devait donner du temps à nos deux officiers là, de venir là, d'ailleurs. Là. En tout cas, ça je l'ai compris pourquoi, mais ça n'a pas de sens. Dans qu'est-ce qu'on va apporter. Là. C'était un peu une contrainte là, qu'ils ont faite, qui ne marchait pas tout à fait, là, mais c'est correct. Là. Honnêtement, là, je c'est pas important pour moi. Là. C'est vraiment comme un peu là, les relations entre les personnages. De comprendre un peu l'environnement aussi. C'est pas juste les personnages, c'est l'environnement, c'est le tout d'un film comme ça aujourd'hui qui fait que c'est vraiment le plaisant à écouter. C'est pas un film qui est pour tout le monde, ça je peux le comprendre, mais c'est tu sais, puis je veux dire, même si on aurait mis beaucoup de production en arrière, je pense que ça aurait resté quand même un film assez limité, pareil. Je veux dire, c'est pas un film là, qui est pour tout le monde, là, c'est, éventuellement. On dit que les promoteurs ne voulaient pas non plus là, arriver là, puis me faire montrer là, les banques comme les grands machins. Mais c'est ça, à quelque part c'est pas juste ça aussi, je pense que c'est pas tout le monde, là. Je veux dire, c'est pas un film que t'amènes ta famille à voir, des affaires de même, ça fait qu'il aurait fait quand même là, des dollars limités, fait que c'est ça un peu là, que je peux voir là, avec le film d'aujourd'hui, mais en tant que tel, là, mis à part là, les petits détails comme j'ai parlé, c'est un film qui est vraiment là, remarquable à écouter. Film que je vais probablement revisiter là, dans un futur éventuellement et que je suis bien content là, dans le fond là, qu'on a dû en guillemets me payer pour l'écouter là, mais je veux dire honnêtement là, c'est le meilleur des deux mondes là-dedans. Honnêtement là, je suis vraiment content là, de ça là, pour ce film là. Le film, ben, c'est ça, comme j'ai dit, là, suite spirituelle avec le film là, que l'écrivain a finalement là, réalisé, là, le film là, High Water, que River High Water, je pense, quelque chose. Wind River, que le film l'écrivain a réalisé plus tard. Fait que, tu sais, ben, je pourrais peut-être arriver et m'informer là-dessus. Mais c'est ça, à quelque part, éventuellement, là. Le je veux dire, il n'y a pas de suite, tout ça, là, c'est ça qui est merveilleux aussi, là, à quelque part, là, on aurait pu avoir finalement la confrontation entre les deux personnages, tout ça, là, il n'y a pas de ça, là, c'est une suite spirituelle, là, c'est pour ça que je ne le couvre pas nécessairement au podcast, c'est juste une idée, c'est comme John Carpenter puis sa trilogie, là, de je me rappelle plus comment qu'il l'appelle, là, mais... L'Apocalypse Trilogy, puis que je vais couvrir les films de Carpenter, mais c'est pas une trilogie de films en soi connectés. Mais c'est ça. Je serais intrigué quand même là, de. Si Sario, je ne l'ai pas vu, puis j'aimerais quand même éventuellement l'écouter, mais je sais aussi qu'il y a une suite, puis tout ça. En tout cas, je sais que ça avait bien été reçu, là, mais je serais intrigué à quelque part là, de voir la suite. Puis, dans le fond, les trois films sont très bien cotés. Fait que. Peut-être au futur du podcast des choses là, que je voudrais couvrir, mais il y a tellement de films que je voudrais couvrir aussi. Là, fait que je ne vais rien promettre, mais ça pourrait être une éventualité au podcast, je veux dire, mais c'est ça, comme j'ai dit. Il y a vraiment trop de films aussi, puis des choses là, que je voudrais couvrir. Comme la semaine prochaine, dans le fond, là, ça va être encore la suite là, du Don. Dans le fond, là, ça va être un autre film là, que j'ai déjà vu, par contre. Le film Drive avec Ryan Gosling. Le film est basé sur une histoire, une nouvelle, en tout cas un livre. J'ai pas encore lu le livre, bien sûr, je vais le lire pour le film, dans le fond, pour pouvoir un peu le embarquer dedans. Le livre a une suite aussi. Dans le fond, là, en tout cas, sur Audible, ils sont pas très longs, me semble. C'est 3-4 heures chaque livre. Fait que. Je vais apporter dans le fond les détails dans le fond là, pour la suite aussi. C'est quelque chose que j'ai mis là, dans mon queue. Puis dans le fond, c'est quelque chose que je vais vous parler là, la semaine prochaine de dans le fond l'histoire là, comparé avec le livre et là, un peu là, d'aller où ce que l'histoire va. Mais c'est un film que j'ai vu juste une fois. Fait que tu sais, c'est très flou un peu. Là. Je sais que ça joue un peu là, avec des idées grisantes que quand j'ai parlé là, du film là, de Nightcrawler. Je me rappelle pas là, du nom exactement, là, mais en tout cas, je pense que c'est le nom en anglais, c'est Nightcrawler, mais en tout cas, il y a d'autres noms. Il y a un autre nom aussi, tout ça, là, en tout cas, avec Jake Gyllenhaal, que j'avais plus ou moins aimé. Là, je pense que j'y avais donné un jaune. J'avais été un petit peu plus froid un peu sur ce film-là. Mais Drive, je me rappelle avoir aimé ça à l'époque, mais en tout cas, on verra bien là, aux prochaines écoutes. Puis, est un petit peu plus... je ne veux pas paraître hautain, là, mais peut-être être un petit peu plus éduqué ou plus réfléchi, là, surtout avec le podcast. Là, comment ça m'amène à penser là, depuis les plus de 5 ans que je couvre les films. Puis voir si ce film-là est aussi bon que dans ma mémoire. C'est un film que je voulais revisiter peut-être aussi parce qu'il était plus expérimental, plus indépendant. Puis voir si, mettons, c'était aussi bon que je me rappelais. Mais c'est ça. Dans le fond, je vais vous arriver avec mes pensées là, la semaine prochaine. Mais entre-temps, ben, c'est ça. Vous pouvez suivre le podcast sur les réseaux sociaux Facebook et ou Twitter, comme que j'ai parlé un peu plus tôt. Puis bien sûr, maintenant, Instagram. N'hésitez pas à commenter sur le film d'aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pensez du film? Je veux dire, est-ce que, dans le fond, Sicario et le film là, de River, quelque chose, la suite dans le fond. Wind River vaut la peine, là, je pense que c'est avec le Eagle, en tout cas l'archer là, dans les Avengers, là, son nom ne m'en revient pas là, en ce moment. Là. Mais en tout cas, n'hésitez pas à commenter sur les réseaux sociaux et me dire si maintenant ce serait quelque chose que vous aimeriez que je couvre dans un futur. Mais sinon, d'ici le prochain épisode, je vais vous fâcher et je vais aller voir du Dr. Pibb. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusé.
Get off my plane.
Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la couverture d'un autre film. Si vous voulez entre-temps regarder le catalogue complet du podcast et télécharger des épisodes passés, rendez-vous sur premiervisionnement.com.
Remember Sally when I promised to kill her last? I lied.
Vous pouvez aussi suivre le podcast sur plusieurs plateformes, dont Apple Podcasts, Spotify, Podbean, Google Podcasts, Amazon Music et YouTube. N'hésitez pas à donner une critique de 5 étoiles sur la plateforme de votre choix.
There's no crying in baseball!
Vous pouvez également suivre Premier Visionnement sur Facebook et Twitter pour rester informé de nouveaux épisodes. Premier Visionnement a besoin de votre aide pour grandir. Vous pouvez partager le podcast avec vos amis qui s'intéressent au cinéma de tout genre.
And you will know my name is the Lord when I lay my fingers upon you.
Le podcast a également besoin de votre support monétaire pour continuer. Avec un don de 10$ pour un ou 25$ pour trois films non franchisés disponibles sur Netflix ou n'importe quel support nécessitant pas un achat, le podcast s'engage à couvrir votre choix dans les 3 mois pour vous remercier de votre don.
You can't handle the truth.
En espérant vous voir au prochain épisode. Bienvenue au Texas. Aujourd'hui, on parle de Comancheria, sorti en 2016 et réalisé par David McKenzie, avec Jeff Bridges, Chris Pine, Ben Foster et Jill Hamilton. Hamilton.